Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour un milieu de travail plus inclusif, un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale. Le personnel de l'association franco-yukonaise AFY a reçu le 24 octobre dernier une formation sur l'inclusion et la solidarité de SLGBTQI+. Elle a été donnée par deux personnes représentantes de l'organisme Réseau Enchanté. Cette formation s'inscrit dans une entente signée entre l'AFY et le Réseau Enchanté pour la mise en œuvre de la politique d'équité, de diversité et d'inclusion de l'organisme francophone. Le Réseau Enchanté est le plus grand réseau d'organisations de SLGBTQI+. Au Canada. Il rassemble plus de 330 organisations et collectifs à travers toutes les provinces et territoires. Bahaïdine Tilouche, consultant et professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa, à la Faculté des sciences de la santé, et Tyler Boyce, directeur général du réseau Enchanté, ont donné une formation sur la compréhension et l'intégration des réalités de SLGBTQI+, dans les services et les milieux de travail. Ils ont également donné une formation aux membres du conseil d'administration de l'AFY et à d'autres partenaires communautaires. Trouver des alliés. Bien que le rôle principal du réseau Enchanté soit plus politique, à travers la recherche de financement et la plaidoirie pour les communautés queer, l'organisme donne également des formations pour trouver des partenaires alliés. On fait parfois des trainings avec nos partenaires pour qu'ils puissent être avec nous sur ce chemin. Donc, ce n'est pas juste un training qu'on fait avec l'AFY. C'est vraiment une amie, une organisation alliée ici au Yukon, avec qui on peut travailler spécifiquement dans nos programmes francophones, explique Taylor Boyce. Pour nous, c'est vraiment important de faire ces sortes de discussions, des trainings avec des organisations qui ne sont pas nécessairement queer, mais qui ont le potentiel d'offrir leurs services à nos communautés pour qu'ils puissent se sentir à l'aise à le faire, ajoute-t-il. Parce qu'on sait, bien sûr, qu'on ne peut pas changer les conditions pour les communautés queer tout seul. Mais on a besoin aussi de personnages alliés, estime-t-il. Des défis. Selon les deux personnes formatrices, les difficultés que rencontre la communauté queer et les dissensions existantes dans la société sont créées à travers la rhétorique de certains personnages politiques dans le but d'obtenir des votes. On parle aujourd'hui d'une grande polarisation de la société dans les différents domaines, mais un de ces domaines, c'est la communauté de la sexualité. On voit la rhétorique des politiciens, même en Saskatchewan, avec leur attaque sur les jeunes trans et les pronoms. On le voit avec Donald Trump, qui a vraiment changé la rhétorique envers nos communautés, partage le directeur général de l'organisme. Il y a des personnes qui ont grandi dans le binaire. Donc, peut-être leur compréhension des choses a toujours été ça, complète Bahaïdine Tilouche. Donc, ça peut être manipulé par des personnes, des politiciens. On le voit bien quand on parle de toxicité masculine, de comment ça s'est outillé pour dire que l'expression du genre d'une autre personne va être une menace pour ton existence, en tant qu'homme cisgenre, alors que ce n'est pas le cas. C'est une question d'éducation, une question d'ouverture, de compréhension des autres aussi. Pour lutter contre ces défis, les deux personnes formatrices estiment que l'éducation a un rôle important à jouer. Que ce soit dans le cadre de nos familles, nos conversations avec nos amis, l'information n'est pas difficile à chercher, dit-il. Ce qui est important, c'est de rester informé, s'éduquer, éduquer les gens autour de nous aussi. Tyler Boyce termine sur une note positive. Le nombre des membres du réseau Enchanté a presque doublé. Quand on a commencé, il y avait comme 160 membres. Et maintenant, on est à presque 300 membres. Lexique inclusif 2SLGBTQI+, intersectionnalité. L'intersectionnalité fait référence à la manière dont les sources de discrimination se chevauchent et se renforcent mutuellement. Le terme fait également référence au fait que, dans la réalité, nous avons tous plusieurs identités qui se croisent et qui font de nous ce que nous sommes. Identité genre. Il s'agit de l'idée intime et personnelle que chacun a de son genre. C'est le sentiment d'être une femme, un homme, les deux, ou ni l'un ni l'autre, ou de se situer à un autre point dans le spectre des genres. Orientation sexuelle. Attirance physique, amoureuse ou émotionnelle d'une personne envers les personnes du genre opposé, du même genre, d'aucun genre ou de plus d'un genre. Expression du genre, manière dont une personne s'exprime ou se présente elle-même, qui peut être associée à son genre, y compris la manière dont une personne est perçue en lien avec son genre. C'était pour un milieu de travail plus inclusif. Un texte de Gwendoline Le Bomain, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale.
Le statu quo est inacceptable. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 11 novembre 2024 dans la presse. Une coalition formée d'organisations faisant la promotion de l'activité physique estime qu'il est plus que temps d'agir en matière de prévention en santé. Ce qu'il faut savoir. Le gouvernement québécois veut mettre en place une stratégie nationale de la prévention dès le printemps 2025. Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, lancera des consultations d'ici là. Une grande coalition, dont font partie Sport Québec, le Grand Défi Pierre Lavoie et la FADOC, estime que l'activité physique doit être au cœur de cette stratégie. Cette coalition sonne l'alarme. L'état de santé des Québécois est médiocre et il faut miser sur l'activité physique pour renverser la vapeur. Elle prévient le gouvernement qu'il faudra investir en prévention pour réduire les coûts du système de santé. Québec a l'intention de mettre en place une stratégie nationale de la prévention dès le printemps 2025. La Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique au Québec, CASAPQ, formée de 10 organisations faisant bouger des gens de tous les âges, veut faire partie de la solution. Ça fait 16 ans qu'on dit qu'on va frapper le mur, dit l'apôtre de l'activité physique Pierre Lavoie. On est dans le mur. Le budget de la santé dépasse les 60 milliards de dollars en hausse de 50 % depuis 6 ans. Une situation qualifiée d'intenable par le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d'un colloque tenu le 1er novembre 2024 à l'Université du Québec à Montréal. C'était écrit dans le ciel, affirme Pierre Lavoie. Tu travailles à augmenter l'espérance de vie, mais tu ne travailles pas à augmenter l'espérance de qualité de vie. La CASAPQ estime que ses membres peuvent contribuer à retarder la maladie et le recours au système de santé des Québécois. Le regroupement, qui a publié une lettre dans la presse début novembre 2024, vient de rendre public un mémoire d'une quarantaine de pages présentant des constats alarmants sur l'état de santé des Québécois ainsi que des pistes de solutions. On a besoin que les organisations soient financées. Nous, les acteurs qui font bouger les jeunes et la société, on est tous dans le trouble, signale M. Lavoie. Beaucoup de bénévoles sont partis durant la pandémie de COVID-19. Selon lui, il faut faire bien plus que des campagnes de promotion de saines habitudes de vie, comme l'a évoqué le ministre de la Santé lors du colloque. Moi, si j'étais le gouvernement, j'investirais massivement dans tous les sports d'inclusion, des sports que même le pauvre peut pratiquer, Natation, athlétisme, soccer, volley-ball, basket-ball, ski de fond, etc. Énumère Pierre Lavoie. Oubliez le tennis, le ski alpin et le hockey. Des sports de riches. Faire bouger les petits en CPE. La CASAPQ fait valoir que l'activité physique pourrait être intégrée dans les centres de la petite enfance, CPE. À l'heure actuelle, les enfants d'âge préscolaire dépendent entièrement à ce chapitre de leurs parents ou de la volonté des éducatrices en service de garde. En Finlande, il y a 120 minutes obligatoires d'activité physique par jour dans les CPE, les garderies, indique Marie-Ève Proux, qui a coordonné la recherche et la rédaction du mémoire de la coalition. Les aînés doivent aussi faire de l'activité physique, plaide la CASAPQ. Le réseau FADOC dit faire bouger 70 000 personnes chaque semaine, notamment grâce au populaire club de pickleball. Mais les participants pourraient être plus nombreux, selon lui. « Si je suis incapable de me payer un appareil auditif, des lunettes, un dentier, je ne vais pas aller socialiser et faire de l'activité physique », dit sa directrice générale Jacinthe Roy. Si je n'ai pas accès à du transport parce que j'ai perdu mon permis de conduire, je vais être réduite dans mes capacités de faire de l'activité physique et de socialiser. À l'instar de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, le réseau FADOC croit que tous les ministères doivent être mis à contribution en matière de prévention. Mais Québec devra délier les cordons de la bourse, affirme sa présidente Gisèle Tassé-Goodman. Il doit y avoir une profonde réflexion sur l'importance de rembourser les coûts des appareils médicaux essentiels, surtout pour les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, pense-t-elle. Un seul appareil auditif est remboursé à l'heure actuelle. 1 $ en prévention, 3,30 $ d'économie en soins. Selon un rapport de la firme de consultants McKinsey, chaque dollar investi en prévention génère un rendement de 3,30 $ en économie de soins de santé, rapporte la CASAPQ dans son mémoire. Le regroupement, dont font aussi partie entre autres le réseau Plein Air Québec, l'Association québécoise du loisir municipal et la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, fait valoir que ses membres représentent une solution simple et accessible et détiennent une expertise. Ils pourraient élargir leur offre pour intéresser un plus large pan de la population et ça aurait un impact direct sur l'état de santé des Québécois, dit Marie-Ève Proux. Pierre Lavoie milite pour l'audace. L'audace, ce n'est pas de la folie, c'est du courage avec de l'intelligence. Le statu quo est inacceptable. Faire bouger le Québec. Du judo pour prévenir les chutes chez les aînés. Des clubs de judo, notamment à Montréal et à Sherbrooke, donnent des cours aux aînés pour leur apprendre à bien tomber. Objectif? Éviter des fractures de la hanche et des commotions cérébrales, entre autres. Le président de Judo Québec, Patrick Kearney, croit que cette initiative pourrait être étendue à l'échelle de la province. Il plaide aussi en faveur de cours gratuits pour les jeunes issus de milieux défavorisés, comme c'est le cas dans son club, situé à Blainville. De l'équipement sportif gratuit. Le grand défi Pierre Lavoie a distribué 3 000 paires de skis de fond à une 60aine de centres au Québec afin de permettre à des jeunes de 12 ans et moins de s'initier à ce sport. Le programme La Petite Expé permet aux enfants d'avoir accès gratuitement aux pistes et à l'équipement. Chaque année, on initie 100 000 enfants au ski de fond au Québec, dit Pierre Lavoie. Du hockey pour fiston, le gym pour maman ou papa. Bien des parents pitonnent sur leur cellulaire pendant l'entraînement de hockey ou de patinage artistique de leur enfant. Et pourquoi pas les faire bouger à la place? On pourrait penser des équipements sportifs et des activités pour que les parents soient actifs, dit le président de Judo Québec, Patrick Kearney. Un petit gym pourrait par exemple être aménagé pour les parents. Un cours d'autodéfense pourrait être donné dans un local attenant. L'activité physique en chiffres. 35 % de la population québécoise a de l'embonpoint et 23 % est obèse, selon l'enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021. 29 % des Canadiens de 5 à 17 ans respectent les directives nationales en matière d'activité physique, soit de pratiquer 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour, indique Participation. 16 % des enfants de 5 ou 6 ans consacrent en moyenne 2 heures et plus par jour à l'utilisation des écrans selon l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants en maternelle. 58,5 % des Québécois de 65 ans et plus sont sédentaires ou peu actifs selon l'enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021. C'était « Le statu quo est inacceptable », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
Insécurité alimentaire. Vive préoccupation d'organisations nationales et internationales face à la faim aiguë en Haïti. Un texte de la rédaction, paru le 1er octobre 2024 dans Alter Presse. La Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, le Programme alimentaire mondial, PAM, et Plan international lancent un cri d'alarme par rapport à la faim aiguë qui règne en Haïti, dans des documents dont a pris connaissance l'agence en ligne Alter Presse. Au moins 6 000 personnes déplacées à l'intérieur d'Haïti font désormais face à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire, phase 5, c'est-à-dire à la famine, à la mort, à la misère et à des niveaux de malnutrition aiguë extrêmement critiques, alerte le dernier rapport d'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC. Ces personnes déplacées vivent dans des abris temporaires dans la capitale haïtienne, après avoir fui leur foyer en raison des violences. Le nombre de personnes confrontées à une faim aiguë atteint désormais la moitié de la population du pays, selon le rapport de l'IPC. Publié par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le PAM, ce rapport fournit une échelle commune pour mesurer la gravité et l'ampleur de la faim aiguë. Il couvre la période allant du mois d'août 2024 à février 2025. 5,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Haïti. C'est l'une des proportions les plus élevées parmi toutes les crises mondiales, souligne le PAM dans une note. Dans ce nombre de personnes, 2 millions sont aux prises avec des niveaux de faim d'urgence, phase 4, confrontés à des pénuries alimentaires extrêmes, à une malnutrition aiguë et à des niveaux élevés de maladies. Ce niveau atteint de faim en Haïti est historique, souligne le PAM, indiquant qu'un Haïtien sur deux souffre désormais de faim aiguë. Le PAM appelle de toute urgence à un large soutien pour augmenter massivement l'aide vitale aux familles, confrontées chaque jour à des pénuries alimentaires extrêmes, à une malnutrition croissante et à des maladies mortelles. Il ne peut y avoir ni sécurité ni stabilité en Haïti, alors que des millions de personnes souffrent de faim, a déclaré la directrice exécutive du PAM, l'Américaine Cindy Lou Hensley-McCain. Nécessité d'agir urgemment contre la faim aiguë en Haïti. Cette même inquiétude est exprimée, dans une note, par Plan international Haïti, PIH, qui souligne la nécessité d'agir rapidement contre la faim aiguë en Haïti. Cette situation d'insécurité alimentaire aiguë serait due à l'instabilité politique accrue, à l'effondrement économique, à la violence et aux conditions météorologiques extrêmes, relève Plan international. Sans une intervention immédiate, Haïti risque de connaître des conséquences catastrophiques, alors qu'elle fait face au niveau d'insécurité alimentaire le plus grave, estime Plan international. Les enfants, les plus touchés par cette catastrophe, ne devrait jamais être confronté à la famine, regrette le directeur au pays de plan international en Haïti, Johnson Bien-Aimé. Face à la détérioration de la situation, une aide internationale supplémentaire est essentielle pour éviter que d'autres vies soient perdues, avertit Plan International, tout en appelant également à une augmentation urgente du financement et de l'accès humanitaire, afin de garantir que l'aide parvienne à celles et ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les enfants. C'était Insécurité alimentaire. Vive préoccupation d'organisations nationales et internationales face à la faim aiguë en Haïti. Un texte de la rédaction paru le 1er octobre 2024 dans Alter Presse.
Comment je suis devenu recordman en course à reculons, ou presque? Un texte de Richard Strasbourg, paru le 12 novembre 2024 dans La Presse. Automne 2008, expatrié en Louisiane, professeur et coureur depuis plusieurs années, j'ai commencé à courir à reculons. D'abord inspiré par une amie qui sautillait pendant les longues courses pour changer le mal de place, j'ai cherché un record de course pour elle. Ce que j'ai plutôt trouvé, c'est la course à reculons. En ligne, j'ai lu sur la technique, les records, les compétitions, les souliers, etc. Après quelques échanges avec le livre Guinness des records, j'ai appris qu'il n'y avait pas de record du demi-marathon à reculons pour les hommes. Je n'avais donc qu'à finir la course, soumettre une preuve et je deviendrais le champion du monde. Quelle idée séduisante de penser que j'avais cette occasion d'être officiellement le meilleur de ma discipline, aussi bizarre soit-elle. Je n'avais pas encore fait un pas. Motivé et curieux d'essayer, mais aussi timide, j'ai attendu que la piste d'athlétisme locale soit déserte pour me lancer. Malheureusement, il y avait toujours du monde. Quelques semaines plus tard, je faisais enfin mes premiers pas en rétro-course. Dans ma petite ville américaine du Sud, où plusieurs me trouvaient déjà bizarre de courir normalement, je craignais les réactions. Accepter les réactions. Le défi, physiquement exigeant, en était aussi un de croissance personnelle. Oser sortir courir en reculant, puis accepter les réactions quelles qu'elles soient, et la honte si je tombais. Toujours est-il que les tours de piste se sont multipliés rapidement, puis j'ai arrêté de tourner en rond et j'ai laissé mes craintes derrière moi, ou devant moi, question de perspective. Traversant les parcs et longeant les pistes cyclables, j'ai accumulé les kilomètres et les réactions positives. Fin décembre 2008, alors que je participais à un demi-marathon, par devant, à la Nouvelle-Orléans, j'ai demandé à l'organisateur si je pourrais courir l'édition 2009 de sa course à reculons. À ma grande surprise, il a accepté. J'ai donc annoncé à tout mon entourage que j'allais courir 21,1 km à reculons l'année suivante. Ayant donc communiqué mes intentions à tout le monde, le défi est devenu celui de tenir parole. Je ne pouvais pas reculer. Ha ha! À ce moment-là, je courais presque 10 km à chaque sortie, mais l'idée de courir plus que le double de cette distance me faisait un peu peur. Aussi, comme les journées raccourcissaient, je devais souvent retourner sur la piste et même y courir dans le noir. Puis, en racontant mes histoires de course à mes jeunes élèves, je me suis demandé comment je pourrais en faire profiter le reste de ma communauté. À ce moment-là, mon aventure de course s'est transformée en campagne de financement pour la Société américaine du cancer. En 2009, de retour à Montréal pour l'été, j'avais tout mon temps pour m'entraîner, mais je devais trouver des endroits sécuritaires où courir sans être dans le chemin et sans trop tourner en rond. Mi-juillet, j'ai atteint mon objectif, 21,1 km à reculons, seul dans un parc de Montréal, sauf pour quelques passants particulièrement enthousiastes. En écrivant ces lignes, j'ai revisité mes souvenirs Facebook pour constater que la nouvelle était plutôt passée inaperçue. Peu importe, j'avais réussi, combattant la douleur physique et une gêne autrefois paralysante pour y arriver, et je savais que c'était possible. La dernière ligne droite. De retour dans le Sud, la chaleur louisianaise a un peu ralenti ma progression, mais j'ai finalement entrepris la dernière ligne droite de mon défi. L'étape suivante consistait à recruter une équipe de témoins prêts à me suivre. Je devais aussi organiser la documentation et recueillir des preuves, articles de journaux, photos, vidéos, documents officiels, etc. Je suis devenu un coureur étonnamment rassembleur et plutôt à l'aise devant une caméra pour quelqu'un qui préférait souvent rester en retrait. Puis, armé d'un go-kart à pédales, j'ai mis en place le dernier morceau du casse-tête organisationnel. Peu avant la course, un membre du club cycliste local, rencontré pour cette occasion bien particulière, a pris en charge la documentation visuelle en plus du pédalage de l'engin. Ainsi, après plus d'un an de préparation, le 20 décembre 2009, je me suis lancé dans mon demi-marathon avec une casquette du Québec fermement plantée sur ma tête, faisant honneur à mes origines. Accompagné par mes amis, sous le soleil et les grands chênes d'un parc historique de la Nouvelle-Orléans, je me suis même retrouvé, occasionnellement, suivi par une équipe de télévision. Moi. Étrangement, l'effort nécessaire pour parcourir cette distance de cette façon est presque devenu une arrière-pensée, distrait par l'extrême bonne humeur qui m'entourait, en comparaison de l'agonie des longs entraînements en solitaire. Simplement, il ne me restait qu'à courir et à vivre chaque moment avec les autres coureurs. Mission accomplie. Et pour le record? Peu après avoir expédié ma preuve, j'ai appris que, quelque part, quelqu'un avait eu la même idée, mais que le type en question avait couvert la distance beaucoup plus rapidement que moi. Peu importe, l'aventure avait été parfaite et les réactions surtout curieuses et toujours respectueuses. Des étrangers m'ont applaudi, d'autres m'ont simplement regardé sans rien dire. On m'a posé beaucoup de questions et j'ai même fait quelques démonstrations. Quelque part sur mon parcours, courir à reculons est devenu mon truc. On me connaissait pour ça et ça faisait partie de mon identité. Aujourd'hui, revenu au Québec depuis 2014, je suis encore, dans une certaine mesure, ce gars-là, même si je cours surtout normalement ces jours-ci. Enfin, pour avoir souvent vécu des situations où j'étais le type bizarre qui ne dit rien dans son coin, je préfère aujourd'hui être reconnu comme le type bizarre qui court à l'envers. Et même si le sujet est souvent mis sur la table par quelqu'un d'autre que moi, je me rends compte que ça surprend encore les gens, mais surtout que ça mène, invariablement, à une conversation positive et joyeuse. C'est aussi un rappel que l'enthousiasme est contagieux et que ce qui semble étrange au premier coup d'œil peut s'avérer être le début d'une belle réaction en chaîne. Il faut simplement faire le premier pas. C'était « Comment je suis devenue recordman en course à reculons » ou presque. Un texte de Richard Strasbourg, paru le 12 novembre 2024 dans La Presse.